franceinter.fr.
Et si l'extinction des mammouths était un jour une histoire ancienne?
Pendant plus d'un million d'années, les mammouths ont régné sur l'Amérique du Nord. Les plus grands mammifères de ce continent avaient résisté aux pires glaciations et aux pires sécheresses. Pourtant, il y a 13 000 ans, les mammouths ont disparu.
Et tous les éléments sont aujourd'hui entre les mains des scientifiques pour réussir à ramener à la vie des espèces anciennement ou récemment disparues. La revue Science consacre d'ailleurs un dossier complet à cette expérience qui fait débat. Est-elle envisageable ou même défendable? Quelle espèce réanimer si jamais on se lançait dans l'aventure? Bonjour Régis De Bruyne.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes paléogénéticien au Muséum National d'Histoire Naturelle. Est-ce que beaucoup de laboratoires dans le monde sont dans les starting blocks pour tenter de recréer des espèces disparues?
Alors dans les starting blocks, même plus pour certains, parce qu'il y en a certains déjà qui ont pris le train il y a quelques années. Ça a commencé, ces histoires de désextinction, au début des années 2010 finalement.
Vous parlez de désextinction, hein, c'est ça, j'ai bien entendu.
Oui, hein. On va dire que c'est le terme, alors je sais pas s'il est consacré, je pense qu'il a été consacré par personne, mais on va dire que les Américains appellent ça la de-extinction, mais on n'a pas d'équivalent en français, alors on les suit là-dessus. C'est pas très agréable comme terme, ça veut pas dire grand-chose, effectivement. En tout cas, ça a pris de l'ampleur cette thématique, effectivement, avec la mise en avant de nouvelles techniques, notamment une technique dont vous parlez souvent sur votre antenne, ce qui a ce nom assez insupportable de CRISPR-Cas9, cette espèce de bistouri moléculaire qui permet de venir travailler au niveau du génome de façon très fine et de venir substituer des gènes à d'autres gènes pour vraiment jouer aux apprentis sorciers au niveau du génome.
Ce sont les ciseaux moléculaires qui permettent de couper directement dans l'ADN, c'est ça en gros?
C'est ça exactement, et contrairement aux ciseaux qu'on utilisait jusqu'à présent, ces ciseaux-là, ils sont précis, c'est-à-dire qu'on peut les diriger de façon ciblée, alors que jusque-là, on avait des outils qui, certes, permettaient de couper, de réarranger des morceaux de génome, mais sans qu'on ait vraiment la maîtrise de ce qu'on faisait.
C'est vraiment le mammouth le candidat numéro un à ce type d'expérience?
Oui, parce que c'est comme pour la production de son génome, d'une certaine façon, le mammouth, il sert de porte-étendard à tous ses travaux, en fait. Peut-être que c'est pour les chercheurs qui sont intéressés aussi un moyen plus pratique de récupérer des moyens financiers que de commencer par une bestiole qui serait un peu moins mythique, peut-être. Donc oui, le mammouth, il est dans le débat aussi parce que c'est un des rares organismes pour lesquels on a beaucoup de données de génome complet, finalement, en dehors de l'espèce humaine. C'est sans doute la seule espèce qui est aussi bien connue parmi les espèces éteintes.
Et ben, concrètement, on a le génome du mammouth qui est connu depuis un an. On a cette technique CRISPR. Comment on fait pour recréer un mammouth à partir de ces deux éléments clés?
Eh bien, comme on n'a pas de cellules de mammouth en état de réaliser un clonage tout bête et méchant, comme on a prétendu qu'on le ferait au début des années 2000, on n'a pas de cellules en état de fonctionner à l'intérieur des mammouths qu'on récupère. Par contre, on a pu récupérer des morceaux de leur génome et assembler ces morceaux par nos ordinateurs, ça nous permet de récupérer le génome en entier. Et ce qu'on a en parallèle, c'est qu'on a des éléphants d'aujourd'hui, et ces éléphants, ils ont un génome qui est aussi peu différent du génome du mammouth que notre génome humain et des différents du génome des chimpanzés, c'est-à-dire très très peu différents. On a quelques dizaines de millions à centaines de millions de différences à l'échelle d'un génome, c'est pas grand-chose. Et donc il suffirait de cibler ces différences et puis de venir remplacer les signatures d'éléphants par des signatures connues désormais donc de mammouths dans leur génome pour espérer avoir produire une chimère en quelque sorte, parce que ce sera pas un véritable mammouth, ça sera un éléphant dont on aura modifié le génome pour le faire mimer celui du mammouth.
C'est un génome Frankenstein en fait.
C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on enlève des morceaux, on en remet d'autres, et puis on essaie de voir ce que ça donne, avec là aussi une petite part mystique, on n'a pas les éclairs pour ranimer tout ça, mais il y a une petite part de... On joue quand même un peu aux apprentis sorciers, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça peut donner, c'est-à-dire quel va être le développement embryonnaire de cet organisme qui n'est ni un mammouth ni un éléphant, on n'en a aucune idée, parce que le génome... Il définit certes ce que les gènes peuvent faire, mais c'est pas la seule information qui décide comment ces gènes doivent fonctionner.
Donc bientôt quasiment un éléphant finalement, Régis de Bruyne. On va créer une nouvelle espèce, quoi.
Tout à fait, on aurait un mammouth synthétique. Ouais, c'est comme ça que j'appelle ça, moi.
Quels sont les arguments qui sont mis en avant par ces équipes dans le monde qui sont prêtes à se lancer là maintenant?
Alors toutes ces équipes essaient un peu de nous flouer, c'est ça qui est sans doute le plus dommageable que la technique elle-même. La technique, bon moi je suis pas un grand défenseur, mais ce qui est plus dommageable c'est de nous faire croire qu'on va protéger la biodiversité avec ce genre de méthode de désextinction. Pourquoi est-ce que c'est complètement fallacieux? Parce que on le sait très bien, écologue, biologiste moléculaire, généticien, que c'est pas en recréant à partir d'un génome connu un individu d'une espèce qu'on pourra rétablir cette espèce en tant qu'entité naturelle. Il faudrait de la diversité génétique, et cette diversité génétique, eh ben, on ne pourra jamais la recréer de façon artificielle. Et donc, on ne pourra jamais finalement recréer facilement une espèce pérenne. On peut espérer recréer, c'est éventuellement des lignées à l'intérieur d'une espèce qui aurait disparu et qu'on pourrait les mélanger avec d'autres lignées, pourquoi pas. Mais recréer un mammouth pour lui rendre la vie dans son milieu naturel, ça, à mon avis, c'est du domaine de la fantaisie.
On peut quand même trouver une bonne raison ou deux à mettre un jour au point cette technique, ou selon vous, pas du tout ?
De toute façon, la technique en elle-même, elle existe. En fait, il s'agit juste d'utiliser la technique à un autre objectif que d'autres objectifs actuels qui sont peut-être plus louables sur la thérapie génique, sur d'autres modifications génétiques qui peuvent avoir un intérêt agroalimentaire, par exemple, pourquoi pas. Rendre la vie à une espèce éteinte, en soi, évidemment, ce serait un pas extrêmement favorable, mais les moyens financiers qu'il faudrait mettre à disposition, quand on les compare aux moyens financiers dont on dispose aujourd'hui pour essayer d'assurer la préservation des espèces modernes, c'est un peu ridicule. On se dit, finalement, est-ce qu'on se trompe pas d'objectif, quoi ? Est-ce qu'il faudrait pas mettre un peu plus de moyens sur ces espèces qui disparaissent au quotidien et pour lesquelles on fait clairement pas le travail nécessaire, ça, c'est sûr.
On pourrait essayer avec le dinosaure, Régis de Bruyne, ou pas ? On n'a pas assez d'ADN
alors,
disponible.
Alors, sur les dinosaures, il n'y a pas d'ADN au sens strict. Par contre, ce dont on dispose aujourd'hui dans la nature, ce sont des oiseaux. Or, les oiseaux sont les derniers dinosaures, entre guillemets. Les dinosaures n'ont jamais disparu, les oiseaux sont leurs derniers représentants, parce que simplement, ils ne ressemblent plus aux dinosaures qu'on connaît, nous, à travers les bouquins de notre enfance. Donc, ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est effectivement leur rendre leur aspect dinosaure, c'est-à-dire leur rendre des dents, leur enlever des plumes, leur rendre des pattes avant, etc., etc. Et effectivement, il y a des tentatives qui ont été faites, là aussi, encore en Amérique du Nord, pour bloquer dans le développement des oiseaux les gènes qui les transforment en oiseaux, en fait, pour bloquer leur développement à un stade plus primitif, entre guillemets, qui les fait ressembler à des proto-dinosaures. En somme, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est rendre des dents aux poules. Donc, les poules, un jour, ont eu des dents. Et voilà,
C'est déjà pas si mal. Merci beaucoup, Régis de Bruyne, pour cet éclairage. Et puis, Axel, c'est un dossier que vous avez repéré dans les pages de Science.